C'est une curieuse traduction qui nous est donnée de ce passage d'Évangile, en particulier de la façon très particulière dont cet homme riche se dit à lui-même, se parle à lui-même, dont littéralement il se dit, on peut reprendre le texte, « Voici ce que je vais faire, je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y mettrai tout mon blé, tous mes biens. Alors, je dirai à mon âme, oui, à mon âme, il reprend, ô mon âme, c'est ainsi qu'il s'adresse à lui-même, ô mon âme, te voilà avec de nombreux biens à ta disposition, etc., de nombreuses années, repose-toi, mange, bois, fais bonbons. Mais Dieu lui dit, tu es fou, insensé que tu es fou, cette nuit même, on va te redemander ton âme, pas ta vie, ton âme. C'est bien plus grand que la vie, au sens extérieur, biologique. Le sujet de cette parabole, ce n'est pas tant la vie matérielle, l'usage des biens, que ce que nous appelions naguère et toujours encore aujourd'hui, le salut de notre âme. Pour prendre un terme de saison, le repos. Le repos de notre âme. Parfois, je rencontre des personnes qui me disent qu'elles ont perdu la foi. Et quand je les entends, quand je pense à elles, que je prie pour elles, je me demande si elles n'ont pas en réalité perdu leur âme. Perdre son âme, quand on ne sait plus qui on est, quand on ne sait même plus ce que signifie réellement le repos. Le point de départ de cette parabole, ce ne sont pas deux sœurs comme Marthe et Marie il y a quelques dimanches, ce sont deux frères qui se disputent, pour reprendre le terme de Marthe et Marie, la meilleure part. Un classique des histoires d'héritage, un classique des histoires de famille, quelle est la famille qui ne connaît pas cela ? Ou lorsque, subitement, ceux qui s'entendaient moyennement par le passé ou se supportaient, deviennent comme des hyènes. Vous savez, des hyènes autour d'un cadavre. Les dents acérées, la bave. Pas le goût du sang, le goût de l'argent. Ils s'entre-dévorent, on voit ça dans toutes les familles. On s'entre-dévore entre soi et ensuite, on vient demander justice. Même à Dieu. On interpelle Jésus. Au début du livre de Job, il y a le diable qui est présent devant le Seigneur, à la cour du roi de l'univers. Le jour où les enfants de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur, dit le texte. Quel est ce jour? Probablement comme pour nous un dimanche. Satan, lui aussi, était venu parmi eux. Il faut imaginer la scène, c'est ce que nous vivrons dans le bonheur, dans la joie du ciel, devant le Seigneur. Tous les enfants de Dieu rassemblés. Et là, il y a le diable. Le chef des âmes perdues, celui dont l'âme, en tout cas, est définitivement perdue. Et que voit-on à ce moment-là, avant de regarder le diable? On voit d'abord la joie de Dieu devant la présence de ses enfants, comme la joie de Dieu aujourd'hui, parce que nous sommes réunis dans cette église. La joie de Dieu, en particulier la joie de Dieu devant son serviteur Job, à tel point qu'il prend à témoin Satan qui revient de parcourir la terre, il dit « T'as vu mon serviteur Job? Lui, le plus riche, le plus fortuné de tous les enfants d'Orient. Il est riche, il est béni, il est merveilleux, il est admiratif. » Évidemment, il craint le Seigneur, il se garde de tout mal. Et il faut entrer dans cette parabole avec ce sentiment du Seigneur, la joie devant ses enfants qui sont bénis, qui sont heureux, et même qui sont riches. Cet homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté, qui a accompli l'œuvre de la création et qui est béni, c'est une bénédiction. Jusqu'à la tentation. La tentation de s'approprier cela, de ne vivre que pour lui. Qui va demander à Dieu l'âme de cet homme? Ils vont te demander ton âme, littéralement. Ils vont te demander, qui c'est ce pluriel, il? C'est Satan, sont les esprits mauvais. C'est pas Dieu, bien sûr. C'est l'obsession du diable que nous allions avec lui. Et Dieu lui dit, attention, tu es fou, insensé. Insensé, tu es fou de quoi? De vouloir profiter de tes biens? De vouloir profiter de la vie? De vouloir profiter des bonnes choses? Mais quelle idée on a de Dieu? Ce sont des dons de Dieu, des bénédictions. Non, tu es fou de ne penser qu'à toi-même, de ne pas t'occuper de ton âme, d'oublier ta relation et au Seigneur et aux autres, de vouloir t'abrutir de toutes sortes de façons. Insensé. L'exclamation était apparue un peu au chapitre précédent dans l'évangile de Saint-Luc, quand Jésus était entré prendre un repas chez un pharisien qui l'avait invité. Et le pharisien était chagriné parce que Jésus n'avait pas fait les ablutions prescrites par la loi. Et Jésus lui dit, bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez, vous soignez l'extérieur et vous oubliez l'intérieur. Il faut que ce soit tout propre, nickel, en apparence. Mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes plein, il ne dit pas d'avidité, vous êtes plein de cupidité, de méchanceté. Celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Et Jésus ajoute, donnez plutôt en aumône ce que vous avez et tout sera pur pour vous. Comment on fait pour garder son âme pure, pour purifier son âme? On partage, on donne en aumône. Pour Job, c'était assez particulier. Chaque fois que ses enfants faisaient des festins, toutes sortes de libations, faisaient toutes sortes de fêtes, ça beaucoup de parents, de grands-parents peuvent le comprendre aujourd'hui, chaque fois que ses enfants festoyaient, il les faisait venir, et il les, peut-être pas à la messe du dimanche, il les faisait venir, et il offrait des sacrifices pour eux. Il disait, on ne sait pas, peut-être que dans leur cœur, ils se sont éloignés du Seigneur. Je pense souvent à une femme que j'ai rencontrée il y a longtemps dans un gros service de chirurgie et qui m'avait arrêté tout de suite. Elle m'avait dit, ne me parlez pas du bon Dieu. Ne me parlez pas du bon Dieu. Et elle avait raison de dire ça comme ça parce qu'elle m'avait raconté son histoire. À 4 ans, elle avait perdu son papa. À 12 ans, sa maman était tombée malade. Elle avait prié toute la nuit. Elle m'a dit, j'ai prié toute la nuit. Au petit matin, elle est morte. Elle s'est retrouvée mariée à un homme, un sale type, un homme mauvais avec qui elle a eu une fille, mais qui l'a abandonnée très vite, qui l'a trompée longtemps et finalement abandonnée. Elle s'est retrouvée toute seule avec sa fille, qu'elle a élevée toute seule. Vous imaginez tous les sacrifices, la vie de labeur. La fille, quand elle s'est mariée, ça s'est mal passé avec le gendre, la fille l'a abandonnée à son tour. Pouh, quelle existence! Enfin, à l'âge de la retraite, elle se dit « Enfin, je vais pouvoir m'occuper un peu de moi ». Je vais pouvoir enfin profiter un peu de la vie. Et moins de 3 mois après sa retraite, son départ en retraite, cancer de la mâchoire, dont elle venait d'opérer, greffer quand je l'ai vue, on pouvait à peine la regarder. Ne me parlez pas du bon Dieu. Ne me parlez pas du bon Dieu. Il y a des jours, parfois, on me demande, est-ce que vous avez toujours la foi ? Il n'y a pas des moments où, devant certaines situations, devant certaines personnes, vous doutez. Quand on voit certaines existences, il n'y a pas des moments où vous doutez. Je dis non, douter, non. Souffrir, oui, pleurer. Pleurer certainement. On ne s'habitue pas à la souffrance. Et au contraire, plus on chemine, plus on rencontre de souffrance, plus il faut garder cela vivant dans la prière. Pour pas justement que les nouvelles souffrances réveillent les anciennes. Alors, quand il y a une personne qui est riche, qui est bénie de Dieu, qui est en bonne santé, qui veut profiter de la vie, où est le problème? Où est sa folie? Il y a quelques semaines ici, au début de l'été, nous avons célébré une messe pour une petite fille qui est morte d'un cancer à 10 ans, 12 ans. Une tumeur au cerveau. Pendant un an, ses parents se sont battus pour elle, bien sûr avec tous les soins possibles. Ils ont surtout construit, comme on le voit souvent aujourd'hui sur les réseaux, un immense réseau de solidarité pour lui permettre de vivre tout ce qu'elle voulait, tout ce qu'elle pouvait désirer, de rencontrer ses chanteurs préférés, de participer à des spectacles, toutes sortes de jeux, faire des voyages, de pouvoir vivre en quelques mois ce qu'elle ne pourrait vivre pendant toute sa vie. Qu'est-ce qu'on dit à des parents qui perdent un enfant? Que Dieu lui-même a donné son fils?
Oui.
C'est ce que nous croyons, c'est ce que nous célébrons. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. C'est le sujet de cette parabole, la vie éternelle, le sacrifice du Christ. Ne me parlez pas du bon Dieu. Quand il y a un enfant qui perd ses parents, tout petit, qui les a perdus, ou quand il y a des parents qui perdent un enfant, il faut pouvoir se réconcilier avec le Seigneur. Il faut pouvoir retrouver confiance. Mais quand on a été béni de Dieu, comme on le voit, j'espère que vous le voyez aussi souvent que moi, comme on le voit autour de nous, quand tout nous sourit dans la vie, quand on reçoit toutes sortes de bénédictions, comment se fait-il qu'on puisse se refermer sur soi? C'est quand même ça la question. Comment est-ce qu'effectivement, quand on est comblé, comment est-ce qu'on peut ainsi se refermer pareillement sur soi? L'homme, dit saint Thomas, est placé entre les objets d'ici-bas et les biens spirituels. Et c'est dans les biens spirituels que réside le bonheur éternel. Plus il adhère aux uns, plus il s'éloigne des autres, et vice-versa. Et saint Thomas dit, c'est comme dans une balance, si l'un des deux plateaux s'abaisse, l'autre s'élève. Je réalisais cela cette semaine dans L'âme de tout apostolat. L'âme de tout apostolat, c'est un grand classique de la littérature spirituelle, c'est dont Jean-Baptiste Chotard qui a écrit cela, un livre prodigieux sur la vie intérieure. Et il cite dans ce livre une note de retraite de Monseigneur Dupont-Loup qui disait le défaut de vie intérieure, l'insuffisance de vie intérieure, c'est la source de tout ce qui ne va pas dans ma vie, de mes trous, mes sécheresses, mes dégoûts, même ma mauvaise santé. Et il prend cette résolution très concrète, il dit « Je vais prendre toujours plus de temps qu'il n'en faut pour faire chaque chose. C'est le moyen de n'être jamais pressé et entraîné. » Prendre plus de temps que nécessaire pour faire chaque chose. Vous allez vous dire, c'est bien les ecclésiastiques qui peuvent se permettre ça. Nous, les gens normaux, on n'y arrive pas. Non, prendre plus de temps qu'il n'en faut pour faire chaque chose, pour prendre le temps de vivre également intérieurement, le temps de notre âme, tant de projets, tant d'activités après lesquelles nous courons, alors qu'au ciel, nous serons comme des anges. Nous serons avec le Seigneur. Nous ne connaîtrons pas d'autre temps que l'instant présent. C'est là que l'âme se repose. C'est là le vrai repos, quand l'âme se repose en Dieu. Oui, c'est un bon repos. C'est le repos que nous pouvons chercher, particulièrement cet été. Celui de l'âme en Dieu.